votre deuxième question sur le pourquoi on décide ici d'une manière et là d'une autre, ben d'abord parce que chaque pays a son droit constitutionnel propre. La Belgique ne prévoit pas le référendum dans sa constitution. Donc, il est nécessaire de procéder à une ratification par la voie parlementaire. La France connaît, depuis la constitution de la Ve République, la procédure référendaire, mais elle laisse, dans cette espèce de monarchie républicaine qui est devenue la France, la liberté au président de la République, selon son bon vouloir, de décider qu'il y aura recours à l'une ou l'autre procédure. Et donc, c'est en fonction du droit constitutionnel propre à chacun des États membres que l'on décide ou non de recourir à la procédure parlementaire ou à la procédure référendaire. Dans certains pays où il n'y a pas la procédure référendaire, il est encore aujourd'hui question d'organiser une consultation populaire qui, elle, n'a que valeur éducative, mais on voit mal un Parlement aller à l'encontre des résultats d'une consultation populaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans Bolkestein que dans la Constitution ? Écoutez, quand la proposition sur les services dans le marché intérieur, parce que c'est son nom officiel, approuvée par toute la Commission européenne et donc aussi par le socialiste Pascal Lamy et l'UMP Michel Barnier, quand elle a été déposée au Conseil des ministres et au Parlement, puisque c'est une matière qui entre dans les fameuses 32 matières, il s'est trouvé un gouvernement pour objecter tout de suite sur le fait que cette proposition de directive prenait pour base légale l'article 4 que je vous ai montré tout à l'heure sur les libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté d'établissement et de circulation des services sans aucune limite et sans aucune restriction, et pour dire que la Commission anticipait sur un traité qui n'était pas encore ratifié. C'était le 13 janvier de l'an passé, enfin en janvier-février de l'an passé, un peu une première. Moi qui lis énormément de documents de la Commission européenne, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est devenu presque banal de lire des phrases qui font référence à ce traité alors qu'il n'est pas encore ratifié. Parce que pour la Commission, il va de soi que ça va devenir la loi et donc qu'il pouvait s'appuyer dessus. Alors, certains disent, au contraire, si la Constitution est adoptée, Bolkestein ne sera plus possible. Je crois que là, ce sont des arguments qui relèvent de la polémique. Parce que quand on compare les textes, on se retrouve devant des évidences fortes. Je voudrais d'abord rappeler que l'objectif de la directive, c'est donc la libéralisation, la liberté d'établissement et de circulation des services et la libéralisation des services. Ce sont les objectifs, en fait, de l'accord général sur le commerce des services de l'OMC que, en principe, nous devons mettre en pratique. Donc, et d'ailleurs, l'exposé des motifs de la directive le dit en toutes lettres, il s'agit de mettre en œuvre la GCS pour que, en plus, l'Union européenne ait une position de force dans les négociations. Parce que vous savez que la particularité de la GCS, c'est d'être un accord qui est en négociation permanente pour sa mise en œuvre. Et donc, l'argument implicite, c'est si nous avons tout libéralisé chez nous, nous serons en position de force à l'OMC pour exiger que les autres libéralisent chez eux. Vous retrouvez à partir de là, dans le texte, les mêmes objectifs que la GCS, que vous retrouvez, je fais référence à l'article 4 du traité constitutionnel, mais aux articles 144 à 148, et à l'article 314, qui sont tous des articles qui tendent à libéraliser les services et à faire donc ce qui est l'objectif de la GCS. Ce qui ne se trouve pas dans le traité constitutionnel, c'est la mention explicite du principe du pays d'origine, comme la mention explicite du principe de la reconnaissance mutuelle. Alors là, ça demande peut-être quelques mots d'explication. Quand on a adopté à Lisbonne la fameuse stratégie de Lisbonne qui consiste à vouloir faire de l'économie européenne l'économie la plus compétitive du monde, mais moi, j'ai envie de dire, 5 ans après, puisqu'on est 5 ans après et qu'on vient de procéder à une évaluation, c'est qu'on voit les résultats quand on veut faire du social avec du libéral, ça ne marche pas. Ce qui est, pour moi, extraordinairement important, c'est que dans Lisbonne, on annonce déjà qu'il faut renoncer à l'harmonisation. et que pour renoncer à l'harmonisation, on invente deux techniques. Le principe du pays d'origine et le principe de la reconnaissance mutuelle, qui sont donc des instruments d'application d'une technique de substitution à l'harmonisation qui tient compte d'une réalité nouvelle, c'est l'élargissement. Parce que ça n'aurait pas de sens d'abandonner l'harmonisation si nous avions dans l'Europe des 25 ou des 27 une situation à peu près analogue en termes de législation sociale, de fiscalité et de développement. D'ailleurs, quand moi j'ai été auditionné par le Parlement européen sur la directive Bolkestein, j'avais d'abord proposé que le Parlement la rejette, mais sachant qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour la rejeter, j'avais dit il faut l'amender. Et une de mes propositions qui reste d'ailleurs sur la table, qui est même dans le rapport de Mme Gebhardt, le rapporteur, c'est de lier le principe du pays d'origine à un niveau dûment constaté et vérifié d'harmonisation. Parce qu'à partir de ce moment-là, le principe du pays d'origine devient inoffensif. Mais ces techniques-là ne sont que des instruments pour remplacer l'harmonisation comme instrument volontaire, politique, de la part des États. Et là il y a, on retrouve alors le traité constitutionnel européen, la fin de l'article 209 que je vous citais tout à l'heure, qui laisse au marché la direction de l'harmonisation sociale.